Du Tillet avait entendu parler de la passion plus ou moins probable de sa belle-sœur pour Nathan. Mais il était de ceux qui la niaient ou la jugeaient incompatible avec la liaison de Raoul et de Fiorine. L'actrice devait chasser la comtesse, et réciproquement. Mais quand, en rentrant chez lui pendant cette soirée, il y vit sa belle-sœur, dont déjà le visage lui avait annoncé d'amples perturbations aux Italiens, il devina que Raoul avait confié ses embarras à la comtesse. La comtesse l'aimait donc, elle était donc venue demander à Marie-Eugénie les sommes dues au vieux Gigonnet. Madame du Tillet, à qui les secrets de cette pénétration en apparence surnaturelle échappaient, avait montré tant de stupéfaction que les soupçons de du Tilleul se chargèrent en certitude. Le banquier crut pouvoir tenir le fil des intrigues de Nathan. Personne ne savait ce malheureux au lit, rue du Mail, dans un hôtel garni, sous le nom du garçon du bureau à qui la comtesse avait promis 500 francs s'il gardait le secret sur les événements de la nuit et de la matinée. Aussi, François Quillet avait-il eu le soin de dire à la portière que Nathan s'était trouvé mal par suite d'un travail excessif. Du Tillet ne fut pas étonné de ne point voir Nathan. Il était naturel que le journaliste se cachât pour éviter les gens chargés de l'arrêter. Quand les espions vinrent prendre des renseignements, ils apprirent que le matin, une dame était venue enlever le rédacteur en chef. Il se passa 2 jours avant qu'ils eussent découvert le numéro du fiacre, questionné le cocher, reconnu, sondé l'hôtel où se ranimait le débiteur. Ainsi, les sages mesures prises par Marie avaient fait obtenir à Nathan un sursis de 3 jours. Chacune des 2 sœurs passa donc une cruelle nuit. Une catastrophe semblable jette la lueur de son charbon sur toute la vie. Elle en éclaire les bas-fonds, les écueils plus que les sommets qui jusqu'alors ont occupé le regard. Frappé de l'horrible spectacle d'un jeune homme mourant dans son fauteuil devant son journal, écrivant à la romaine ses dernières pensées, la pauvre madame du Tillet ne pouvait penser qu'à lui porter secours, à rendre la vie à cette âme par laquelle vivait sa sœur. Il est dans la nature de notre esprit de regarder aux effets avant d'analyser les causes. Eugénie approuva de nouveau l'idée qu'elle avait eue de s'adresser à la baronne Nelphine de Nucingen, chez laquelle elle dînait et ne douta pas du succès. Généreuse comme toutes les personnes qui n'ont pas été pressées dans les rouages en acier poli de la société moderne, Madame du Tillet résolut de prendre tout sur elle. De son côté, la comtesse, heureuse d'avoir déjà sauvé la vie de Nathan, employa sa nuit à inventer des stratagèmes pour se procurer 40 000 francs. Dans ces crises, les femmes sont sublimes. Conduites par le sentiment, elles arrivent à des combinaisons qui surprendraient les voleurs, les gens d'affaires et les usuriers, si ces 3 classes d'industriels, plus ou moins passe-tentés, s'étonnaient de quelque chose. La comtesse vendait ses diamants en songeant à emporter 2 faux. Elle se décidait à demander la somme à Vandenesse pour sa sœur, déjà mise en jeu par elle. Mais elle avait trop de noblesse pour ne pas reculer devant les moyens déshonorants. Elle les concevait et les repoussait. L'argent de Vandenesse à Nathan, elle bondissait dans son lit effrayée de sa scélératesse. Faire monter de faux diamants, son mari finirait par s'en apercevoir. Elle voulait aller demander la somme au Rothschild qui avait tant d'or, à l'archevêque de Paris qui devait secourir les pauvres, courant ainsi d'une religion à l'autre, implorant tout. Elle déplora de se voir en dehors du gouvernement. Jadis, elle aurait trouvé son argent à emprunter aux environs du trône. Elle pensait à recourir à son père, mais l'ancien magistrat avait en horreur les illégalités. Ses enfants avaient fini par savoir combien peu il sympathisait avec les malheurs de l'amour. Il ne voulait point en entendre parler, il était devenu misanthrope. Il avait toute intrigue en horreur. Quant à la comtesse de Granville, elle vivait retirée en Normandie, dans une de ses terres, économisant et priant, achevant ses jours entre des prêtres et des sacs d'écus, froide jusqu'au dernier moment. Quand Marie aurait eu le temps d'arriver à Bayeux, sa mère lui donnerait-elle tant d'argent, sans savoir quel en serait l'usage? Supposer des dettes, oui, peut-être se laisserait-elle attendrir par sa favorite. Eh bien, en cas d'insuccès, la comtesse irait donc en Normandie. Le comte de Granville ne refuserait pas de lui fournir un prétexte de voyage en lui donnant le faux avis d'une grave maladie survenue à sa femme. Le désolant spectacle qui l'avait épouvanté le matin, les soins prodigués à Nathan, les heures passées au chevet de son lit, ces narrations entrecoupées, cette agonie d'un grand esprit, ce vol du génie arrêté par un vulgaire, par un ignoble obstacle, tout lui revint en mémoire pour stimuler son amour. Elle repassa ses émotions et se sentit encore plus éprise par les misères que par les grandeurs. Aurait-elle baisé ce front couronné par le succès? Non. Elle trouvait une noblesse infinie aux dernières paroles que Nathan lui avait dites dans le boudoir de Lady Dudley. Quelle sainteté dans cet adieu! Quelle noblesse dans l'immolation d'un bonheur qui serait devenu son tourment à elle! La comtesse avait souhaité des émotions dans sa vie. Elles abondaient, terribles, cruelles, mais aimées. Elle vivait plus par la douleur que par le plaisir. Avec quelle délice elle se disait « Ah, oh, je l'ai déjà sauvé, je vais le sauver encore !» Elle l'entendait s'écriant « Il n'y a que les malheureux qui savent jusqu'où va l'amour !» quand il avait senti les lèvres de sa Marie posées sur son front. « Es-tu malade ?» lui dit son mari, qui vint dans sa chambre la chercher pour le déjeuner. « Oh, je suis horriblement tourmentée du drame qui se joue chez ma sœur, » dit-elle sans faire de mensonge. « Elle est tombée en de bien mauvaises mains. C'est une honte pour une famille que d'y avoir un Du Tillet, un homme sans noblesse. S'il arrivait quelque désastre à votre sœur, elle ne trouverait guère de pitié chez lui. Quelle est la femme qui s'accommode de la pitié ? Dit la comtesse en faisant un mouvement convulsif. Impitoyable, votre rigueur est une grâce pour nous. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je vous sais noble de cœur, dit Félix en baisant la main de sa femme et tout ému de cette fierté. Une femme qui pense ainsi n'a pas besoin d'être gardée. Gardée, reprit-elle, autre honte qui retombe sur vous. Félix sourit, mais Marie rougissait. Quand une femme est secrètement en faute, elle monte ostensiblement l'orgueil féminin au plus haut point. C'est une dissimulation d'esprit dont il faut leur savoir gré. La tromperie est alors pleine de dignité, sinon de grandeur. Marie écrivit deux lignes à Nathan sous le nom de M. Quillet pour lui dire que tout allait bien et les envoya par un commissionnaire à l'hôtel du Mail. Le soir, à l'opéra, la comtesse eut les bénéfices de ses mensonges car son mari trouva très naturel qu'elle quittât sa loge pour aller voir sa sœur. Félix attendit, pour lui donner le bras, que du trésor eût laissé sa femme seule. De quelles émotions Marie fut agitée en traversant le corridor en entrant dans sa loge de sa sœur et s'y posant d'un front calme devant le monde étonné de les voir ensemble. Eh bien, lui dit-elle, le visage de Marie-Eugénie était une réponse. Il y éclatait une joie naïve que bien des personnages attribuèrent à une vaniteuse satisfaction. Il sera sauvé, ma chère, mais pour 3 mois seulement, pendant lesquels nous aviserons à le secourir plus efficacement. Madame de Nucingen veut 4 lettres de change de chacune 10 000 francs, signées de n'importe qui, pour ne pas te compromettre. Elle m'a expliqué comment elles devaient être faites. Je n'y ai rien compris, mais Monsieur Nathan te les préparera. J'ai seulement pensé que Schmucke, notre vieux maître, peut nous être très utile en cette circonstance. Il les scierait. En joignant à ces 4 valeurs une lettre par laquelle tu garantiras leur paiement à Madame de Nucingen, elle te remettra demain l'argent. Fais tout par toi-même, ne te fie à personne. J'ai pensé que Schmucke n'aurait aucune objection à t'opposer. Pour dérouter les soupçons, j'ai dit que tu voulais obliger notre ancien maître de musique, un Allemand, dans le malheur. J'ai donc pu demander le plus profond secret. Mais tu as de l'esprit comme un ange, pourvu que la baronne de Nucingen n'en cause qu'après avoir donné l'argent, dit la comtesse en levant les yeux, comme pour implorer Dieu, quoique à l'opéra. Oh, Schmucke demeure dans la petite rue de Nevers, sur le quai Conti. Ne l'oublie pas, vas-y toi-même. Oh, merci, dit la comtesse en serrant la main de sa sœur. Ah, je donnerais 10 ans de ma vie. Oh, à prendre dans ta vieillesse. Pour faire à jamais causer de pareilles angoisses, dit la comtesse en souriant de l'interruption. Toutes les personnes qui lorgnaient en ce moment les deux sœurs pouvaient les croire occupées de frivolité en admirant leurs rires ingénus. Mais un de ces oisifs qui viennent à l'opéra plus pour espionner les toilettes et les figures que par plaisir aurait pu deviner le secret de la comtesse en remarquant la violente sensation qui éteignit la joie de ces deux charmantes physionomies. Raoul, qui pendant la nuit ne craignait plus les recors, pâle et blême, l'œil inquiet, le front attristé, parut sur la marche de l'escalier où il se posait habituellement. Il chercha la comtesse dans sa loge, la trouva vide. Il se prit alors le front dans ses mains en s'appuyant le coude à la ceinture. « Peut-elle être à l'opéra ?» pensa-t-il. « Regarde-nous donc, pauvre grand homme !» dit à voix basse Madame du Tillet. Quant à Marie, au risque de se compromettre, elle attacha sur lui ce regard violent et fixe par lequel la volonté jaillit de l'œil comme du soleil jaillissent les ombres lumineuses et qui pénètrent, selon les magnétiseurs, la personne sur laquelle il est dirigé. Raoul sembla frappé par une baguette magique. Il leva la tête et son œil rencontra soudain les yeux des deux sœurs. Avec cet adorable esprit qui n'abandonne jamais les femmes, Madame de Vandenesse saisit une croix qui jouait sur sa gorge et la lui montra par un sourire rapide et significatif. Le bijou rayonna jusque sur le front de Raoul qui répondit par une expression joyeuse. Il avait compris. « N'est-ce donc rien, Eugénie, dit la comtesse à sa sœur, que de rendre ainsi la vie aux morts ? Oh, tu peux entrer dans la société des naufrages, répondit Eugénie en souriant. Ah, comme il est venu triste, abattu, mais comme il s'en ira content. Eh bien, comment vas-tu, mon cher ? Dit du Tillet en serrant la main à Raoul et l'abordant avec tous les symptômes de l'amitié. Mais comme un homme qui vient de recevoir les meilleurs renseignements sur les élections. Je serai nommé, répondit le radieux Raoul. Ravi, répliqua du Tillet. Il va nous falloir de l'argent pour le journal. Oh, nous en trouverons, dit Raoul. Les femmes ont le diable pour elles, dit Du Tillet, sans se laisser prendre encore aux paroles de Raoul, qu'il avait nommé charnatan. À quel propos, dit Raoul. Oh, ma belle-sœur est chez ma femme, dit le banquier. Il y a quelque intrigue sous le jeu. Tu me parais adoré de la comtesse. Elle te regarde à travers toute la salle. Vois, dit madame Du Tillet à sa sœur, on nous dit fausse. Et mon mari câline monsieur de Nathan, et c'est lui qui veut le faire mettre en prison. Et les hommes nous accusent, s'écria la comtesse. Je l'éclairerai. Elle se leva, reprit le bras de Vandenesse qui l'attendait dans le corridor, revint radieuse dans sa loge, puis elle quitta l'opéra, commanda sa voiture pour le lendemain avant 8 heures, et se trouva dès 8h30 au quai Conti, après avoir passé rue de Maille. La voiture ne pouvait entrer dans la petite rue de Nevers. Mais comme Chouquet habitait une maison située à l'angle du quai, la comtesse n'eut pas à marcher dans la boue. Elle sauta presque de son marchepied à l'allée boueuse et ruinée de cette vieille maison noire, raccommodée comme la faïence d'un portier, avec des attaches en fer et surplombant de manière à inquiéter les passants. Le vieux maître de chapelle demeurait au 4e étage et jouissait du bel aspect de la Seine, depuis le Pont-Neuf jusqu'à la colline de Chaillot. Ce bon être fut si surpris quand le laquais lui annonça la visite de son ancienne écolière, que dans sa stupéfaction, il la laissa pénétrer chez lui. Jamais la comtesse n'eut inventé ni soupçonné l'existence qui se révéla soudain à ses regards, quoiqu'elle connût depuis longtemps le profond dédain de Schmouquet pour le costume et le peu d'intérêt qu'il portait aux choses de ce monde. Qui aurait pu croire au laisser-aller d'une pareille vie à une si complète insouciance? Schmouquet était un Diogène musicien. Il n'avait point honte de son désordre. Il l'eût nié tant il était habitué. L'usage incessant d'une bonne grosse pipe allemande avait répandu sur le plafond, sur le misérable papier de tenture écorché en 1000 endroits par un chat, une teinte blonde qui donnait aux objets l'aspect des moissons dorées de Cérès. Le chat, doué d'une magnifique robe à longues soies ébouriffées, à faire envie, à une portière, était là comme la maîtresse du logis, grave dans sa barbe, sans inquiétude. Du haut d'un excellent piano de Vienne, où il siégeait magistralement, il jeta sur la comtesse, quand elle entra, ce regard mielleux et froid par lequel toute femme étonnée de sa beauté l'aurait saluée. Il ne se dérangea point. Il agita seulement les 2 fils d'argent de ses moustaches droites et reporta sur Schmouquet ses 2 yeux d'or. Le piano, caduc et d'un bon bois peint en noir et or, mais sale, déteint, écaillé, montrait des touches usées comme les dents des vieux chevaux et jaunies par la couleur fuligineuse tombée de la pipe. Sur la tablette, de petits tas de cendres disaient que la veille, Schmouquet avait chevauché sur le vieil instrument vers quelque sabbat musical. Le carreau, plein de boue séchée, de papier déchiré, de cendres de pipe, de débris inexplicables, ressemblait au plancher des pensionnats quand il n'a pas été balayé depuis 8 jours, et d'où les domestiques chassent des monceaux de choses qui sont entre le fumier et les guenilles. Un œil plus exercé que celui de la comtesse y aurait trouvé des renseignements sur la vie de Schmouquet, dans quelques épluchures de marron, des pelures de pommes, des coquilles de rouge, dans des plats cassés par inadvertance et crottés de sauerkraut. Ce détritus allemand formait un tapis de poudreuses immondices qui craquaient sous les pieds et se ralliait à un amas de cendres qui descendait majestueusement d'une cheminée en pierre peinte où trônait une bûche en charbon de terre devant laquelle deux tisons avaient l'air de se consumer. Sur la cheminée, un trumeau et sa glace où les figures dansaient la sarabande. D'un côté, la glorieuse pipe accrochée, et de l'autre, un pot chinois où le professeur mettait son tabac. Deux fauteuils achetés de hasard, comme une couchette maigre et plate, comme la commode vermoulue et sans marbre, comme la table estropiée où se voyaient les restes d'un frugal déjeuner, composaient ce mobilier plus simple que celui d'un Wigham de Mohican. Un miroir à barbe, suspendu à l'espagnolette de la fenêtre sans rideau et surmonté d'une loque zébrée par les nettoyages du rasoir, indiquait les sacrifices que Schmucke faisait aux grâces et au monde. Le chat, être faible et protégé, était le mieux partagé. Il jouissait d'un vieux coussin de bergère, auprès duquel se voyait une tasse et un plat de porcelaine blanche. Mais ce qu'aucun style ne peut décrire, c'est l'état où Schmucke, le chat et la pipe, trinité vivante, avaient mis ses meubles. La pipe avait brûlé la table, ça et là. Le chat et la tête de Schmucke avaient graissé le velours d'Utrecht vert des deux fauteuils de manière à lui ôter sa rudesse. Et sans la splendide queue de ce chat qui faisait en partie le ménage, jamais les places libres sur la commode ou sur le piano n'eussent été nettoyées. Dans un coin se tenaient les souliers qui voudraient un dénombrement épique. Les dessus de la commode et du piano étaient encombrés de livres de musique à dos rongés, ventrés, à coin blanchi et moussé où le carton montrait ses 1000 feuilles. Le long des murs étaient collés avec des pains à cacheter les adresses des écolières. Le nombre de pains sans papier indiquait les adresses défuntes. Sur le palpier se lisaient des calculs faits à la craie. La commode était ornée de cruchons de bière bu la veille, lesquels paraissaient neufs et brillants au milieu de ces vieilleries et des paperasses. L'hygiène était représentée par un pot à eau couronné d'une serviette et un morceau de savon vulgaire, blanc pailleté de bleu, qui humectait le bois de rose en plusieurs endroits. Deux chapeaux, également vieux, étaient accrochés à un porte-manteau d'où pendait le même carrick bleu à trois collets que la comtesse avait toujours vu à Schmucke. Au bas de la fenêtre étaient trois pots de fleurs, des fleurs allemandes sans doute, et tout auprès une canne de houx. Quoique la vue et l'odorat de la comtesse fussent désagréablement affectés, le sourire et le regard de Schmucke lui cachèrent ses misères sous de célestes rayons qui firent resplendir les teintes blondes et vivifièrent ce chaos. L'âme de cet homme divin, qui connaissait et révélait tant de choses divines, scintillait comme un soleil. Son rire si franc, si ingénu, à l'aspect d'une de ces saintes Céciles, répandit les éclats de la jeunesse, de la gaieté, de l'innocence. Il versa les trésors les plus chers à l'homme et s'en fit un manteau qui cacha sa pauvreté. Le parvenu le plus dédaigneux eût trouvé peut-être ignoble de songer au cadre où s'agitait ce magnifique apôtre de la religion musicale. « Eh ben, quel hasard ici ! Chère madame la comtesse, dit-il, « vous dites que je chante Elle gandille des oignons à mon âge. » Cette idée raviva son accès de rire immodéré. « Suis-je en bonne fortune ?» reprit-il encore d'un air fin. Puis il se remit à rire comme un enfant. « Vif n'est pire la musique, et non pire ce beau bromé. Je le sais, dit-il d'un air mélancolique, mais ce n'est pour lui ce que vif tout fredresse. Vous savez qu'ici, tu t'es testé à vis, corps, âme et pièce. » Il prit la main de la comtesse, la baisa et y mit une larme, car le bonhomme était tous les jours au lendemain du bienfait. Sa joie lui avait ôté pendant un instant le souvenir pour le lui rendre dans toute sa force. Aussitôt, il prit la craie, sauta sur le fauteuil qui était devant le piano, puis, avec une rapidité de jeune homme, il écrivit sur le papier en grosses lettres « 17 février 1835 ». Ce mouvement si joli, si naïf, fut accompli avec une si furieuse reconnaissance que la comtesse en fut tout émue. « Ma sœur viendra, » lui dit-elle. « L'autre aussi, quand, que ce soit, afin qu'il meure, » reprit-il. « Elle viendra vous remercier d'un grand service que je viens vous demander de sa part, » reprit-elle. « Oh, vite, s'écria Schmouquet. « Que vous dit-il veut faire ? Vous dit-il athée au diable ?»« Rien que maître. Accepté pour la somme de 10 000 francs sur chacun de ses papiers, » dit-elle en tirant de son manchon 4 lettres de change préparées selon la formule par Nathan. « Oh, ce sera bientôt valide, » répondit l'Allemand avec la douceur d'un adieu. « Seulement, je ne sais pas où se trouve Mrs. Bellum et mon grier. »« Fatandela, mein Hermir !» cria-t-il au chat qui le regarda froidement. « C'est mon chat !» fit-il en le montrant à la comtesse. C'est la pauvre animal qui fit avec il beau frouchmic. Il est beau. Ah oui, dit la comtesse. Le foulez-vous, fils? Oh, y pensez-vous, reprit-elle, n'est-ce pas votre ami? Le chat, qui cachait l'encrier, devina que Schmouquet le voulait et sauta sur le lit. Il est trop malin comme un singe, reprit-il en le montrant sur le lit. Je le nomme Mire, pour glorifier notre grand Hoffmann de Berlin, que j'ai beaucoup connu. Le bonhomme signait avec l'innocence d'un enfant qui fait ce que sa mère lui ordonne de faire, sans y rien concevoir, mais sûr de bien faire. Il se préoccupait bien plus de la présentation du chat à la comtesse que des papiers par lesquels sa liberté pouvait être, suivant les lois relatives aux étrangers, à jamais aliénée. « Vous m'assurez que ces 10 papiers d'un prêt ?»« Oh, n'ayez pas la moindre inquiétude, » dit la comtesse. « Oh, je n'ai point d'inquiétude, » reprit brusquement. « Je demande si ces petits babiers d'un vrai verront plaisir à Madame Dideviller. »« Oh, oui, dit-elle, vous lui rendez service, comme si vous étiez son père. »« Je suis son père, heureux de lui être pour la quelque chose. »« Entendez mon musique, » dit-il, en laissant les papiers sur la table et sautant à son piano. Déjà, les mains de cet ange trottaient sur les vieilles touches. Déjà, Son regard atteignait aux cieux à travers les toits. Déjà, le plus délicieux de tous les chants fleurissait dans l'air et pénétrait l'âme. Mais la comtesse ne laissa ce naïf interprète des choses célestes faire parler le bois et les cordes, comme fait la sainte Cécile de Raphaël pour les anges qui l'écoutent, que pendant le temps que mit l'écriture à sécher. Elle se leva, mit les lettres de change dans son manchon, et tira son radieux maître des espaces éthérés où il planait, en le rappelant sur la terre. « Mon bon Schmouke, dit-elle en lui tapant sur l'épaule. « Oh tes chats !» s'écria-t-il avec une affreuse soumission. « Pourquoi êtes-vous tant que fini ?» Il ne murmura point, il se dressa comme un chien fidèle pour écouter la comtesse. « Mon bon Schmuke, reprit-elle, il s'agit d'une affaire de vie et de mort. Les minutes économisent du sang et des larmes. « Toujours la même, dit-il. Allez, Sanche, séchez les pleurs des autres. Sachez ce que le pauvre Schmuke gonne visite pour que l'on se rende. Nous nous reverrons, dit-elle. Vous viendrez faire de la musique et dîner avec moi tous les dimanches, sous peine de nous brouiller. Je vous attends dimanche prochain. Frais ? Oh, je vous en prie. Et ma sœur vous indiquera sans doute un jour aussi. Mon bonheur sera donc comblé, te dit-il. Car je ne vis fouiller qu'aux Champs-Élysées. Quand vous y passiez, on en dira, bien rarement. Cette idée sécha les larmes qui lui roulaient dans les yeux, et il offrit le bras à sa belle écolière, qui sentit battre démesurément le cœur du vieillard. « Vous pensiez donc à nous ? » dit-elle. « Oh, toujours ! En marchant mon bain, reprit-il. D'abord, comme à mes bienfaitrices, puis... comme nos douze premières jeunes filles, dignes d'amour que j'ai eues. » La comtesse n'osa plus rien dire. Il y avait dans cette phrase une incroyable et respectueuse, une fidèle et religieuse solennité. Cette chambre enfumée et pleine de débris était un temple habité par deux divinités. Le sentiment s'y accroissait à toute heure, à l'insu de celle qui l'inspirait. Ah, là donc, nous sommes aimés, bien aimés, pensa-t-elle. L'émotion avec laquelle le vieux Schmuke fit la comtesse montant en voiture fut partagée par elle, qui du bout des doigts lui envoya de ces délicats baisers que les femmes se donnent de loin pour se dire bonjour. À cette vue, Schmuke resta planté sur ses jambes longtemps après que la voiture eut disparu. Quelques instants après, la comtesse entrait dans la cour de l'hôtel de Madame de Nucingen. La baronne n'était pas levée, mais pour ne pas faire attendre une femme haut placée, elle s'enveloppa d'un châle et d'un peignoir. « Il s'agit d'une bonne action, madame, dit la comtesse. « La promptitude est alors une grâce. Sans cela, je ne vous aurais pas dérangé de si bonne heure. »« Oh, comment ? Mais je suis trop heureuse !» dit la femme du banquier en prenant les quatre papiers et la garantie de la comtesse. Elle sonna sa femme de chambre. « Thérèse, dites au caissier de me monter lui-même à l'instant 40 000 francs. » Puis elle serra dans un secret de sa table l'écrit de Madame Vandenesse après l'avoir cacheté. « Vous avez une délicieuse chambre, dit la comtesse. « Ah, monsieur de Nucingen va m'en priver. Il fait bâtir une nouvelle maison. Vous donnerez sans doute celle-ci à mademoiselle votre fille, On parle de son mariage avec monsieur de Rastignac. Le caissier parut au moment où madame de Nucingen allait répondre. Elle prit les billets et remit les quatre lettres de change. Cela se balancera, dit la baronne au caissier. Sauve les secondes, dit le caissier. Stichmke, il est un musicien des Ansbach, ajouta-t-il en voyant la signature et faisant frémir la comtesse. Fais-je donc des affaires? Dit madame de Nucingen en tançant le caissier par un regard hautain. Ceci me regarde. Le caissier eut beau guigner alternativement la comtesse et la baronne, il trouva leurs visages immobiles. Allez, laissez-nous. Ayez la bonté de rester quelques moments afin de ne pas leur faire croire que vous êtes pour quelque chose dans cette négociation, dit la baronne à madame de Vandevesse. Je vous demanderai de joindre à tant de complaisance, reprit la comtesse, celle de me garder le secret.
Pour une bonne action, cela va sans dire, répondit la baronne en souriant.
Je vais faire envoyer votre voiture au bout du jardin. Elle partira sans vous, puis nous le traverserons ensemble. Personne ne vous verra sortir d'ici. Ce sera parfaitement inexplicable.
Vous avez de la grâce, comme une personne qui a souffert, reprit la comtesse.
Oh, je ne sais pas si j'ai de la grâce, mais j'ai beaucoup souffert, dit la baronne.
Vous avez eu la vôtre à meilleur marché, je l'espère. Une fois l'ordre donné, la baronne prit des pantoufles fourrées, une pelisse, et conduisit la comtesse à la petite porte de son jardin. Quand un homme a ourdi un plan, comme celui qu'avait tramé Du Tillet contre Nathan, il ne le confie à personne. Nucingen en savait quelque chose, mais sa femme était entièrement en dehors de ses calculs machiavéliques. Seulement, la baronne, qui savait Raoul gêné, n'était pas la dupe des deux sœurs. Elle avait bien deviné les mains entre lesquelles irait cet argent. Elle était enchantée d'obliger la comtesse. Elle avait d'ailleurs une profonde compassion pour de tels embarras. Rastignac, posé pour pénétrer les manœuvres des deux banquiers, vint déjeuner avec madame Nucingen. Delphine et Rastignac n'avaient point de secret l'un pour l'autre. Elle lui raconta sa scène avec la comtesse. Rastignac, incapable d'imaginer que la baronne pût jamais être mêlée à cette affaire, d'ailleurs accessoire à ses yeux, un moyen parmi tous ses moyens, la lui éclaira. Delphine venait peut-être de détruire les espérances électorales de Du Tillet, de rendre inutiles les tromperies et les sacrifices de toute une année. Rastignac mit alors la baronne au fait en lui recommandant le secret sur la faute qu'elle venait de commettre.
Pourvu, dit-elle, que le caissier n'en parle pas à Nucingen.
Quelques instants avant midi, pendant le déjeuner de Du Tillet, on lui annonça M. Gigonnet.
Oh, qu'il entre, dit le banquier, quoique sa femme fût à table.
Eh bien, mon vieux Shylock, notre homme est-il coffré?
Ah non.
Comment? Ne vous avais-je pas dit rue du Mail, hôtel?
Il a payé, fit Gigonnet en tirant de son portefeuille 40 billets de banque.
Du Tillet eut une mine désespérée.
Ah, il ne faut jamais mal accueillir les écus, dit l'impassible compère de Du Tillet. Cela peut porter malheur.
Mais où avez-vous pris cet argent, madame? dit le banquier en jetant sur sa femme un regard qui la fit rougir jusque dans la racine des cheveux. « Je ne sais pas ce que signifie votre question, » dit-elle. « Ah, je pénétrerai ce mystère, » répondit-il en se levant furieux. « Vous avez renversé mes projets les plus chers. Vous avez renversé votre déjeuner, » dit Gigonnet, qui arrêta la nappe prise par le pan de la robe de chambre de Du Tillet. Madame Du Tillet se leva froidement pour sortir. Cette parole l'avait épouvantée. Elle sonna et un valet de chambre vint. « Mes chevaux, » dit-elle au valet de chambre, « demandez Virginie, je veux m'habiller. »« Où allez-vous ? » fit Du Tillet. « Les maris bien élevés ne questionnent pas leurs femmes, » répondit-elle, « et vous avez la prétention de vous conduire en gentilhomme. Mais je ne vous reconnais plus depuis 2 jours que vous avez vu 2 fois votre impertinente sœur. Vous m'avez ordonné d'être impertinente, dit-elle. Je m'essaie sur vous. Votre serviteur, madame, dit Gigonnet, peu curieux d'une scène de ménage. Du Tillet regarda fixement sa femme, qui le regarda de même, sans baisser les yeux. « Mais qu'est-ce que cela signifie ? » dit-il. « Oh, que je ne suis plus une petite fille, à qui vous ferez peur, » reprit-elle. « Je suis et serai toute ma vie une loyale et bonne femme pour vous. Vous pourrez être un maître si vous voulez, mais un tyran, non !» Du Tillet sortit. Après cet effort, Marie-Eugénie rentra chez elle, abattue. « Sans le danger que court ma sœur, se dit-elle, je n'aurais jamais osé le braver ainsi. Mais, comme dit le proverbe, quelque chose malheur est bon. » Pendant la nuit, Madame Du Tillet avait repassé dans sa mémoire les confidences de sa sœur. Sûre du salut de Raoul, sa raison n'était plus dominée par la pensée de ce danger imminent. Elle se rappela l'énergie terrible avec laquelle la comtesse avait parlé de s'enfuir avec Nathan pour le consoler de son désastre, si elle ne l'empêchait pas. Elle comprit que cet homme pourrait déterminer sa sœur par un excès de reconnaissance et d'amour à faire ce que la sage Eugénie regardait comme une folie. Il y avait de récents exemples dans la haute classe de ces fuites qui paient un certain plaisir par des remords, par la déconsidération que donnent les fausses positions, et Eugénie se rappelait leurs affreux résultats. Le mot de Du Tillet venait de mettre sa terreur au comble. Elle craignit que tout ne se découvrît. Elle vit la signature de la comtesse de Vandenesse dans le portefeuille de la maison du Singen. Elle voulut supplier sa sœur de tout avouer à Félix. Alors Madame Du Tillet ne trouva point la comtesse. Félix était chez lui. Une voix intérieure cria à Eugénie de sauver sa sœur. Peut-être demain serait-il trop tard. Elle prit beaucoup sur elle, mais elle se résolut à tout dire au comte. Ne serait-il pas indulgent en trouvant son honneur encore sauf? La comtesse était plus égarée que pervertie. Eugénie eut peur d'être lâche et traîtresse en divulguant ces secrets que garde la société tout entière. D'accord en ceci, mais enfin, elle vit l'avenir de sa sœur. Elle trembla de la trouver un jour seule, ruinée par Nathan, pauvre, souffrante, malheureuse, au désespoir. Elle n'hésita plus et fit prier le comte de la recevoir. Félix, étonné de cette visite, eut avec sa belle-sœur une longue conversation, durant laquelle il se montra si calme et si maître de lui qu'elle trembla de lui voir prendre quelque terrible résolution.
« Soyez tranquille, lui dit Vandenesse, je me conduirai de manière à ce que vous soyez béni un jour par la comtesse. Quelle que soit votre répugnance à garder le silence vis-à-vis d'elle après m'avoir instruit, faites-moi crédit de quelques jours. Quelques jours me sont nécessaires pour pénétrer des mystères que vous n'apercevez pas et surtout pour agir avec prudence. » Peut-être saurai-je tout en un moment. Il n'y a que moi de coupable, ma sœur. Tous les amants jouent leur jeu, mais toutes les femmes n'ont pas le bonheur de voir la vie comme elle l'est. Madame du Tillet sortit rassurée. Félix de Vandenesse alla prendre aussitôt 40 000 francs à la Banque de France et courut chez madame de Nucingen. Il la trouva, la remercia de la confiance qu'elle avait eue en sa femme et lui rendit l'argent. Le comte expliqua ce mystérieux emprunt par les folies d'une bienfaisance à laquelle il avait voulu mettre des bornes. « Oh, ne me donnez aucune explication, monsieur, puisque madame de Vandenesse vous nous a tout avoué, dit la baronne de Hosingen. « Elle le sait tout, » pensa Vandenesse. La baronne remit la lettre de garantie et envoya chercher les 4 lettres de change. Vandenesse, pendant ce moment, jeta sur la baronne le coup d'œil fin des hommes d'État. Il l'inquiéta presque et jugea l'heure propice à une négociation. « Ah, nous vivons à une époque, madame, où rien n'est sûr, » lui dit-il. Les trônes s'élèvent et disparaissent en France avec une effrayante rapidité. 15 ans. Non. 15 ans font justice d'un grand empire, d'une monarchie et aussi d'une révolution. Personne n'oserait prendre sur lui de répondre de l'avenir. Vous connaissez mon attachement à la légitimité. Oh, ces paroles n'ont rien d'extraordinaire dans ma bouche. Supposez une catastrophe. Ne seriez-vous pas heureuse d'avoir un ami dans le parti qui triompherait ? Ah, certes, dit-elle en souriant. Eh bien, voulez-vous avoir en moi, secrètement, un obligé qui pourrait maintenir à M. de Nucingen, le cas échéant, la pairie à laquelle il aspire ? Mais que voulez-vous de moi ? S'écria-t-elle. « Oh, peu de choses, » reprit-il, « tout ce que vous savez sur Nathan. » La baronne lui répéta sa conversation du matin avec Rastignac et dit à l'expert de France, en lui remettant les 4 lettres de change qu'elle alla prendre au caissier, « N'oubliez pas votre promesse. » Vandenesse oubliait si peu cette prestigieuse promesse qu'il la fit briller aux yeux du baron de Rastignac pour obtenir de lui quelques autres renseignements. En sortant de chez le baron, il dicta pour Florine à un écrivain public la lettre suivante. « Si mademoiselle Florine veut savoir quel est le premier rôle qu'elle jouera, elle est priée de venir au prochain bal de l'opéra, en s'y faisant accompagner de M. Nathan. » Cette lettre, une fois mise à la poste, il alla chez son homme d'affaires, garçon très habile et délié, quoique honnête. Il le pria de jouer le rôle d'un ami auquel Schmucke aurait confié la visite de Madame de Vandenesse, en s'inquiétant un peu tard de la signification de ces mots, acceptés pour 10 000 francs, répétés 4 fois. Lequel viendrait demander à M. Nathan une lettre de change de 40 000 francs comme contre-valeur. C'était jouer gros jeu. Nathan pouvait avoir su déjà comment s'étaient arrangées les choses, mais il fallait hasarder un peu pour gagner beaucoup.
Dans son trouble, Marie pouvait bien avoir oublié de demander à son Raoul un titre pour Schmouké. L'homme d'affaires alla sur le champ au journal et revint triomphant à 5 heures chez le comte avec une contre-valeur de 40 000 francs. Dès les premiers mots échangés avec Nathan, il avait pu se dire envoyé par la comtesse. Cette réussite obligeait Félix à empêcher sa femme de voir Raoul jusqu'à l'heure du bal de l'opéra où il comptait l'amener et l'y laisser s'éclairer elle-même sur la nature des relations de Nathan avec Florine. Il connaissait la jalouse fierté de la comtesse. Il voulait la faire renoncer d'elle-même à son amour, ne pas lui donner lieu de rougir à ses yeux et lui montrer à temps ses lettres à Nathan vendues par Florine, à laquelle il comptait les racheter. Ce plan si sage, conçu si rapidement, exécuté en partie, devait manquer par un jeu du hasard qui modifie tout ici-bas. Après le dîner, Félix mit la conversation sur le bal de l'opéra en remarquant que Marie n'y était jamais allée et il lui en proposa le divertissement pour le lendemain. « Je vous donnerai quelqu'un à intriguer, » dit-il. « Ah, vous me ferez bien plaisir. Pour que la plaisanterie soit excellente, une femme doit s'attaquer à une belle proie, à une célébrité, à un homme d'esprit, et le faire donner au diable. Veux-tu que je te livre Nathan ? J'aurai, par quelqu'un qui connaît Florine, des secrets à le rendre fou. Florine, dit la comtesse, l'actrice. Marie avait déjà trouvé ce nom sur les lèvres de Quillet, le garçon de bureau du journal. Il lui passa comme un éclair dans l'âme. « Eh bien oui, sa maîtresse, » répondit le comte. « Est-ce donc étonnant ? » « Je croyais monsieur Nathan trop occupé pour avoir une maîtresse. Les auteurs ont-ils le temps d'aimer ?»« Oh, je ne dis pas qu'ils aiment, ma chère. » Mais ils sont forcés de loger quelque part, comme tous les autres hommes, et quand ils n'ont pas de chez soi, quand ils sont poursuivis par les gardes du commerce, ils logent chez leur maîtresse, ce qui peut vous paraître leste, mais ce qui est infiniment plus agréable que de loger en prison. Le feu était moins rouge que les joues de la comtesse. Voulez-vous de lui pour victime ? « Vous l'époux entrer, » dit le comte, en continuant sans faire attention au visage de sa femme. « Je vous mettrai à même de lui prouver qu'il est joué comme un enfant par votre beau-frère du Tillet. Ce misérable veut le faire mettre en prison afin de le rendre incapable de se porter son concurrent dans le collège électoral où Nucingen a été nommé. Je sais, par un ami de Florine, la somme produite par la vente de son mobilier qu'elle lui a donnée pour fonder son journal. Je sais ce qu'elle lui a envoyé sur la récolte qu'elle est allée faire cette année dans les départements et en Belgique. Argent qui profite en définitive à Du Tillet, à Nucingen et à Massol. Tous trois par avance. Ils ont vendu le journal au ministère, tant ils sont sûrs d'évincer ce grand homme. Monsieur Nathan est incapable d'avoir accepté l'argent d'une actrice. Vous ne connaissez guère ces gens-là, ma chère, dit le comte. Il ne vous dira pas le fait. Non, j'irai certes au bal, dit la comtesse. Vous vous amuserez, reprit Vandenesse. Avec de pareilles armes, vous fouetterez rudement l'amour-propre de Nathan et vous lui rendrez service. Vous le verrez se mettant en fureur, se calmant, bondissant sous vos piquantes épigrammes. tout en plaisantant. Vous éclairerez un homme d'esprit sur le péril où il est, et vous aurez la joie de faire battre les chevaux du juste milieu dans leur écurie. Tu ne m'écoutes plus, ma chère enfant.
Au contraire, je vous écoute trop, répondit-elle.
Je vous dirai plus tard pourquoi je tiens à être sûr de tout ceci.
Sûr, reprit Non.
Sûr, reprit Vandenesse.
Reste masqué. Je te fais souper avec Nathan et Florine. Il sera bien amusant, pour une femme de ton rang, d'intriguer une actrice après avoir fait caracoler l'esprit d'un homme célèbre autour de secrets si importants. Tu les attelleras l'un et l'autre à la même mystification. Je vais me mettre à la piste des infidélités de Nathan. Si je puis saisir les détails de quelque aventure récente, tu jouiras d'une colère de courtisane, une chose magnifique, celle à laquelle se livrera Florine, bouillonnera comme un torrent des Alpes. Elle adore Nathan. Il est tout pour elle. Elle y tient comme la chair aux os, comme la lionne à ses petits. Je me souviens d'avoir vu dans ma jeunesse une célèbre actrice qui écrivait comme une cuisinière venant redemander ses lettres à un de mes amis. Je n'ai jamais depuis retrouvé ce spectacle, cette fureur tranquille, cette impertinente majesté, cette attitude de sauvage. Souffres-tu, Marie ?
Oh non, 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 on a fait trop de feu.
La comtesse alla se loger sur une causeuse. Tout à coup, par un de ces mouvements impossibles à prévoir et qui fut suggéré par les dévorantes douleurs de la jalousie, elle se dressa sur ses jambes tremblantes, croisa ses bras et vint lentement devant son mari. « Que sais-tu ? » lui demanda-t-elle. « Tu n'es pas homme à me torturer. Tu m'écraserais sans me faire souffrir, dans le cas où je serais coupable.
Que veux-tu que je sache, Marie ?
Eh bien, Nathan, tu crois l'aimer, reprit-il, mais tu aimes un fantôme construit avec des phrases.
Ah, tu sais donc ?
Tout, dit-il. Ce mot tomba sur la tête de Marie comme une massue. « Ah, si tu le veux, je ne serai jamais rien, » reprit-il.
« Mais tu es dans un abîme, mon enfant. Il faut t'en tirer.
J'y ai déjà songé. Tiens. » Il tira de sa poche de côté lettre de garantie et les quatre lettres de change de Schmucke que la comtesse reconnut, et il les jeta dans le feu. « Que serais-tu devenue, pauvre Marie, dans 3 mois d'ici ? Tu te serais vue traitée par les buissiers... Tu te serais vue traînée par les huissiers devant les tribunaux ? Ne baisse pas la tête, ne t'humilie point. Tu as été la dupe des sentiments les plus beaux, tu as coqueté avec la poésie. » Et non avec un homme.
Toutes les femmes, toutes, entends-tu, Marie, eussent été séduites à ta place. Ne serions-nous pas absurdes, nous autres hommes, qui avons fait 1000 sottises en 20 ans, de vouloir que vous ne soyez pas imprudente une seule fois dans toute votre vie ? Dieu me garde de triompher de toi ou de t'accabler d'une pitié que tu repoussais si vivement l'autre jour. Peut-être ce malheureux était-il sincère quand il t'écrivait, sincère en se tuant, sincère en revenant le soir même chez Florine.
Nous valons moins que vous. Je ne parle pas pour moi dans ce moment, mais pour toi. Je suis indulgent, mais la société ne l'est point. Elle fuit la femme qui fait un éclat. Elle ne veut pas qu'on cumule un bonheur complet et la considération. Est-ce juste? Je ne saurais le dire. Le monde est cruel, voilà tout. Peut-être est-il plus envieux en masse qu'il ne l'est pris en détail. Assis au parterre, un voleur applaudit au triomphe de l'innocence et lui prendra ses bijoux en sortant. La société refuse de calmer les maux qu'elle engendre. Elle décerne des honneurs aux habiles tromperies et n'a point de récompense pour les dévouements ignorés. Je sais et je vois tout cela. Mais si je ne puis déréformer le monde, au moins est-il en mon pouvoir de te protéger contre toi-même. Il s'agit ici d'un homme qui ne t'apporte que des misères, et non d'un de ces amours saints et sacrés qui commandent parfois notre abnégation, qui portent avec eux des excuses. Peut-être ai-je eu le tort de ne pas diversifier ton bonheur, de ne pas opposer à de tranquilles plaisirs des plaisirs bouillants, des voyages, des distractions. Je puis d'ailleurs m'expliquer le désir qui t'a poussé vers un homme célèbre par l'envie que tu as causée à certaines femmes. Lady Dudley, Madame d'Espard, Madame de Manerville et ma belle-sœur Emily sont pour quelque chose en tout ceci. Ces femmes contre lesquelles je t'avais mis en garde auront cultivé ta curiosité plus pour me faire chagrin que pour te jeter dans les orages qui, je l'espère, auront grondé sur toi sans t'atteindre. En écoutant ces paroles empreintes de bonté, la comtesse fut en proie à 1000 sentiments contraires. Mais cet ouragan fut dominé par une vive admiration pour Félix. Les âmes nobles et fières reconnaissent promptement la délicatesse avec laquelle on les manie. Ce tact est au sentiment ce que la grâce est au corps. Maria apprécia cette grandeur empressée de s'abaisser aux pieds d'une femme en faute pour ne pas la voir rougissant. Elle s'enfuit comme une folle et revint, ramenée par l'idée de l'inquiétude que son mouvement pouvait causer à son mari. « Attendez !» lui dit-elle en disparaissant. Félix lui avait habilement préparé son excuse. Il fut aussitôt récompensé de son adresse, car sa femme revint, toutes les lettres de Nathan à la main, et les lui livra. « Jugez-moi » dit-elle en se mettant à genoux. « Est-on en état de bien juger quand on aime ?» répondit-il. Il prit les lettres et les jeta dans le feu, car plus tard sa femme pouvait ne pas lui pardonner de ne les avoir lus. Non, 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 car plus tard sa femme pouvait ne pas lui pardonner de les avoir lus. Marie, la tête sur les genoux du comte, y fondait en larmes. « Mon enfant, « où sont les tiennes ?» dit-il en lui relevant la tête. À cette interrogation, la comtesse ne sentit plus l'intolérable chaleur qu'elle avait aux joues. Elle eut froid. « Pour que tu ne soupçonnes pas ton mari de calomnier l'homme que tu as cru digne de toi, je te ferai rendre les lettres par Florine elle-même. »«
Oh, mais pourquoi ?» ne les rendrait-il pas sur ma demande?
Et s'il les refusait? La comtesse baissa la tête.
Oh, le monde me dégoûte, reprit-elle. Je n'y veux plus aller. Je vivrai seule près de toi, si tu me pardonnes.
Tu pourrais t'ennuyer encore. D'ailleurs, que dirait le monde si tu le quittais brusquement? Au printemps, nous voyagerons, nous irons en Italie, nous parcourrons l'Europe en attendant que tu aies plus d'un enfant à élever. Nous ne sommes pas dispensés d'aller au bal de l'opéra demain, car nous ne pouvons pas avoir tes lettres autrement sans nous compromettre, et en te les apportant, Florine n'accusera-t-elle pas bien son pouvoir?
Et je verrai cela, dit la comtesse épouvantée.
Après demain matin.
Le lendemain, vers minuit, au bal de l'opéra, Nathan se promenait dans le foyer en donnant le bras à un masque d'un air assez martial. Après deux ou trois tours, deux femmes masquées les abordèrent.
« Pauvre sot, tu te perds. Marie est ici et te voit, » dit à Nathan Vandenesse qui s'était déguisé en femme.
« Si tu veux m'écouter, tu sauras des secrets que Nathan t'a cachés et qui t'apprendront les dangers que court ton amour pour lui, » dit en tremblant la comtesse à Florine.
Nathan avait brusquement quitté le bras de Florine pour suivre le comte qui s'était dérobé dans la foule à ses regards. Florine alla s'asseoir à côté de la comtesse qui l'entraîna sur une banquette à côté de Vandenesse, revenu pour protéger sa femme.
« Explique-toi, ma chère, » dit Florine,
« et ne crois pas me faire poser longtemps. Personne au monde ne m'arrachera Raoul, vois-tu. Je le tiens par l'habitude, qui vaut bien l'amour.
« D'abord es-tu Florine, » dit Félix en reprenant sa voix naturelle.
« Belle question! Si tu ne le sais pas, comment veux-tu que je te croie, farceur ?»
« Va demander à Nathan, qui maintenant cherche la maîtresse de qui je parle, où il a passé la nuit il y a 3 jours. Il s'est asphyxié, ma petite, à ton insu, faute d'argent. Voilà comment tu es au fait des affaires d'un homme que tu dis aimer, et tu le laisses sans le sou, et il se tue. Ou plutôt, il ne se tue pas, il se manque. Un suicide manqué. C'est aussi ridicule qu'un duel, sans égratignure.
« Mais tu mens, » dit Florine. « Il a dîné chez moi, ce jour-là,
mais après le soleil couché.
Le pauvre garçon était poursuivi, il s'est caché, voilà tout.
Va donc demander rue Dumail, à l'hôtel Dumail, s'il n'a pas été amené mourant par une belle femme, avec laquelle il est en relation depuis 1 an, et les lettres de ta rivale sont cachées à ton nez, chez toi. Si tu veux donner à Nathan quelques bonnes leçons, nous irons tout droit chez toi. Là, je te prouverai, pièces en main, que tu peux l'empêcher d'aller rue de Clichy sous peu de temps, si tu veux être bonne fille.
Oh! Essaye d'en faire aller d'autres que Florine, mon petit. Je suis sûr que Nathan ne peut être amoureux de personne.
Tu voudrais me faire croire qu'il a redoublé pour toi d'attention depuis quelque temps. Mais c'est précisément ce qui prouve qu'il est très amoureux.
D'une femme du monde, lui, dit Florine. Oh, je ne m'inquiète pas pour si peu de choses.
« Eh bien, veux-tu le voir venir te dire qu'il ne te ramènera pas ce matin chez toi ?»«
Si tu me fais dire cela, » reprit Florine, « je te mènerai chez moi et nous y chercherons ces lettres auxquelles je croirai quand je les verrai. Il les écrirait donc pendant que je dors. »«
Reste là, » dit Félix, « et regarde. » Il prit le bras de sa femme et se mit à 2 pas de Florine. Bientôt, Nathan, qui allait et venait dans le foyer, cherchant de tous côtés son masque comme un chien cherche son maître, revint à l'endroit où il avait reçu la confidence. En lisant sur ce front une préoccupation facile à remarquer, Florine se posa comme un terme devant l'écrivain, et lui dit impérieusement
« Oh, je ne veux pas que tu me quittes. J'ai des raisons pour cela. »
« Marie !» dit alors par le conseil de son mari la comtesse à l'oreille de Raoul. Quelle est cette femme? Laissez-la sur le champ, sortez, et allez m'attendre au bas de l'escalier. »
Dans cette horrible extrémité, Raoul donna une violente secousse au bras de Florine, qui ne s'attendait pas à cette manœuvre, et quoiqu'elle le tât avec force, elle fut contrainte à le lâcher. Nathan se perdit aussitôt dans la foule.
« Que te disais-je ? » cria Félix dans l'oreille de Florine stupéfaite et en lui donnant le bras.
« Allons, dit-elle, qui que tu sois, viens.
As-tu ta voiture ?» Pour toute réponse, Vandenesse emmena précipitamment Florine et courut rejoindre sa femme à un endroit convenu sous le péristyle. En quelques instants, les trois masques, menés vivement par le cocher de Vandenesse, arrivèrent chez l'actrice qui se démasqua. Madame de Vandenesse ne put retenir un tressaillement de surprise à l'aspect de Florine, étouffant de rage, superbe de colère et de jalousie.
« Il y a, lui dit Vandenesse, un certain portefeuille dont la clé ne t'a jamais été confiée. Les lettres doivent y être. »
« Mais pour le coup, je suis intrigué. Tu sais quelque chose qui m'inquiétait depuis plusieurs jours, » dit Florine en se précipitant dans le cabinet pour y prendre le portefeuille.
Vandenesse vit sa femme pâlissant sous son masque. La chambre de Florine en disait plus sur l'intimité de l'actrice et de Nathan qu'une maîtresse idéale n'en aurait voulu savoir.
L'œil d'une femme sait pénétrer la vérité de ces sortes de choses en un moment, et la comtesse aperçut dans la promiscuité des affaires de ménage une attestation de ce que lui avait dit Vandenesse. Florine revint avec le portefeuille.
Comment l'ouvrir ? Dit-elle.
L'actrice envoya chercher le grand couteau de sa cuisinière, et quand la femme de chambre le rapporta, Florine le brandit en disant d'un air railleur « C'est avec ça qu'on égorge les poulets !»
Ce mot qui fit tressaillir la comtesse lui expliqua encore mieux que ne l'avait fait son mari la veille la profondeur de l'abîme où elle avait failli glisser.
« Ah, mais suis-je sotte ?» dit Florine. « Son rasoir vaut bien mieux. »
Elle alla prendre le rasoir avec lequel Nathan venait de se faire la barbe et tendit les plis du maroquin qui s'ouvrit et laissa passer les lettres de Marie. Florine en prit une au hasard.
« Ah, oui, c'est bien une femme comme il faut. » Ça m'a l'air de ne pas avoir une faute d'orthographe. »
Vandenesse prit les lettres et les donna à sa femme, qui alla vérifier sur une table si elles y étaient toutes.
« Veux-tu les céder en échange de ceci ?»
dit Vandenesse en tendant à Florine la lettre de change de 40 000 francs.
« Est-il bête de souscrire de pareils titres ?» « Bon, pour mes billets, » dit Florine en lisant la lettre de change. « Oh, je t'en donnerai des comtesses. Et moi, qui me tuais le corps et l'âme en province pour lui ramasser de l'argent, moi qui me serais donné la scie d'un agent de change pour le sauver. Ah, voilà les hommes. Quand on se donne pour eux, ils vous marchent dessus. Et il me le paiera. »
Madame de Vandenesse s'était enfuie avec les lettres.
Hey, dis donc, beau masque, laisse-moi une seule pour le convaincre.
Cela n'est plus possible, dit Vandenesse.
Et pourquoi?
Ben, ce masque est ton ex-rival.
Oh, tiens, mais elle aurait bien pu me dire merci, s'écria Florine.
« Pourquoi donc prends-tu donc les 40 000 francs ?» dit Vandenesse en la saluant. Il est extrêmement rare que les jeunes gens poussés à un suicide, le recommencent quand ils en ont subi les douleurs. Lorsque le suicide ne guérit pas de la vie, il guérit de la mort volontaire. Aussi Raoul n'eut-il plus envie de se tuer quand il se vit dans une position encore plus horrible que celle d'où il voulait sortir, en trouvant sa lettre de change à Schmuck dans les mains de Florine, qui la tenait évidemment du comte de Vandenesse. Il tenta de revoir la comtesse pour lui expliquer la nature de son amour qui brillait dans son cœur plus vivement que jamais. Mais la première fois que dans le monde la comtesse vit Raoul, elle lui jeta ce regard fixe et méprisant qui met un abîme infranchissable entre une femme et un homme. Malgré son assurance, Nathan n'osa jamais, durant le reste de l'hiver, ni parler à la comtesse, ni l'aborder. Cependant, il souffrit à Blondet. Il voulut, à propos de Madame de Vandenesse, lui parler de Laure et de Béatrix. Il fit la paraphrase de ce beau passage, dû à la plume de Théophile Gautier, un des plus remarquables poètes de ce temps. Idéal, fleur bleue à cœur d'or, dont les racines fibreuses, mille fois plus déliées que les tresses de soie des fées, plongent au fond de notre âme pour en boire la plus pure substance. Fleur douce et amère, on ne peut t'arracher sans faire saigner le cœur, sans que de ta tige brisée suinte des gouttes rouges. Ah, fleur maudite, comme elle a poussé dans mon âme. Tu auras un dot, mon cher, lui dit Blondet. Je t'accorde qu'il y avait une jolie fleur, mais elle n'était point idéale. Et au lieu de chanter comme un aveugle devant une niche vide, tu devrais songer à te laver les mains pour faire ta soumission au pouvoir et te ranger. Tu es un trop grand artiste pour être un homme politique. Tu as été joué par des gens qui ne te valaient pas. Allez, pense à te faire jouer encore, mais ailleurs. Marie, ne saurais m'empêcher de l'aimer, dit Nathan. J'en ferai ma Béatrix. Mon cher, Béatrix était une petite fille de 12 ans, que Dante n'a plus revue. Sans cela, aurait-elle été Béatrix? Pour se faire d'une femme une divinité, nous ne devons pas la voir avec un mantelet d'aujourd'hui, demain avec une robe décolletée, après-demain sur le boulevard, marchant dans des joujoux pour son petit dernier. Quand on a Florine, qui, tour à tour, est duchesse de vaudeville, bourgeoise de drame, négresse, marquise, colonel, paysanne en Suisse, vierge du soleil au Pérou, sa seule manière d'être vierge, je ne sais pas comment on s'aventure avec les femmes du monde. Du Tillet, en termes de bourse, exécuta Nathan, qui, faute d'argent, abandonna sa part dans le journal. L'homme célèbre n'eut pas plus de 5 voix dans le collège où le banquier fut élu. Quand, après un long et heureux voyage en Italie, la comtesse de Vandenesse revint à Paris l'hiver suivant, Nathan avait justifié toutes les prévisions de Félix. D'après les conseils de Blondet, il parlementait avec le pouvoir. Quant aux affaires personnelles de cet écrivain, elles étaient dans un tel désordre qu'un jour, aux Champs-Élysées, la comtesse Marie vit son ancien adorateur à pied, dans le plus triste équipage, donnant le bras à Florine. Un homme indifférent est déjà passablement laid aux yeux d'une femme, mais quand elle ne l'aime plus, il paraît horrible, surtout lorsqu'il ressemble à Nathan. Madame de Vandenesse eut un mouvement de honte en songeant qu'elle s'était intéressée à Raoul. Si elle n'eût pas été guérie de toute passion extra-conjugale, le contraste que présentait alors le comte, comparé à cet homme déjà moins digne de la faveur publique, eût suffi pour lui faire préférer son mari à un ange. Aujourd'hui, cet ambitieux, si riche en encre et si pauvre en vouloir, a fini par capituler et par se caser dans une sinécure comme un homme médiocre. Après avoir appuyé toutes les tentatives désorganisatrices, il vit en paix, à l'ombre, et une feuille ministérielle. La croix de la Légion d'honneur, texte fécond de ses plaisanteries, orne sa boutonnière. La paix à tout prix, sur laquelle il avait fait vivre la rédaction d'un journal révolutionnaire, est l'objet de ses articles laudatifs. L'hérédité, tant attaquée par ses phrases saint-simoniennes, il la défend aujourd'hui avec l'autorité de la raison. Cette conduite illogique a son origine et son autorité dans le changement de front de quelques gens qui, durant nos dernières évolutions politiques, ont agi comme Raoul. Au Jardy, décembre 1838.